Catherine Clémentin-Aujat, vous avez publié en février dernier chez Albin Michel un ouvrage intitulé « Les chrétiens de l'Inde ». À votre avis, dans quel contexte faut-il situer cette flambée de violence ?
L'Inde est un pays pluri-religieux et il y a depuis bien longtemps, mais surtout depuis la partition du pays, c'est-à-dire depuis 1947, la création de l'Inde d'un côté de l'Union indienne, d'un côté et d'autre part du Pakistan de l'autre. Cette partition a certainement contribué à accentuer encore les tensions entre les différents groupes qui forment la population.
Mais est-ce qu'il y a une spécificité antichrétienne ?
C'est très lié au problème de la conversion, car les tensions, elles opposent très spécifiquement des militants hindous qui ont une certaine conception du rapport entre la nation indienne et l'hindouisme, et d'autre part des chrétiens qui sont identifiés par les premiers comme des missionnaires. C'est ça qui est le nœud du problème.
Oui, mais pourquoi maintenant ? Est-ce que les conversions ont augmenté ?
Non, pas du tout. Les conversions n'ont pas du tout augmenté. Nous en avons une preuve immédiate dans les recensements. Vous savez qu'en Inde, il y a des recensements décennaux. Le dernier recensement de 2001 établit, on ne peut plus clairement, que la population chrétienne en Inde n'augmente pas et que même on peut dire d'une certaine façon qu'elle régresse. Il y a actuellement en Inde 2,3% de chrétiens. Il y avait au recensement précédent 2,4% de chrétiens. Nous parlons d'une population très importante en termes numériques. 2,4 ou 2,3% d'individus, évidemment, cela se chiffre en plusieurs millions. Il est bien possible que dans certaines zones, et notamment dans les zones dites tribales, il y ait des mouvements de population d'une communauté religieuse à une autre communauté religieuse. Ça se joue sur quelques centaines de milliers de personnes, mais localement, ça peut avoir une certaine incidence. Ça peut être perçu comme une mise en danger de l'identité nationale.
Alors, on entend souvent dire que les chrétiens sont persécutés parce que leur religion favorise l'émancipation des couches les plus défavorisées et que cela bouscule l'ordre social. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est certainement une des causes, c'est-à-dire que c'est une cause économique. Il y a une remise en cause du statu quo social. Il y a des revendications nouvelles, inédites, de droits, qui sont perçues par les communautaristes hindous, en l'occurrence, comme des menaces. Mais si on s'en prend spécifiquement aux chrétiens en ce moment, ce ne sont pas que pour des raisons économiques. C'est aussi parce que le chrétien, dans la représentation des communautaristes hindous, est considéré, au fond, comme quelqu'un qui n'appartient pas à la bonne religion. Il appartient à une religion importée, certes de longue date, qui n'est pas indienne, et donc à ce titre qui n'a pas sa place légitime en Inde. Il en est de même des musulmans. Dans le regard des communautaristes hindous, les musulmans indiens n'ont pas plus de place légitime en Inde que n'en ont les chrétiens, n'est-ce pas ? Et comme vous le savez, les musulmans font l'objet d'exactions et de violences bien plus importantes que les chrétiens. C'est pas du tout comparable. Donc cette vision du chrétien comme appartenant à une religion importée, et qui plus est, en ce qui concerne le christianisme associé au fait colonial, est une explication très importante de ces attitudes et de ces violences.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le renforcement de ces réflexes identitaires et l'expansion économique de l'Inde, qui assume un rôle grandissant sur la scène internationale ?
De notre point de vue, il y a certainement une contradiction. Du point de vue interne à l'Inde, ça se joue sur des tableaux extrêmement différents. Les communautaristes hindous qui s'en prennent aux chrétiens font partie d'une sorte de lumpen prolétariat sans instruction, sans avenir, qui ne font justement pas partie de cette Inde brillante, hein, Shining India, dont on parle tant. Ils expriment par là sans doute des frustrations, des gens qui sont laissés sur le bord de la route et qui ne peuvent pas aspirer au moindre développement. Il y a plusieurs Indes en Inde, plusieurs niveaux de développement, plusieurs perspectives qui coexistent dans ce vaste sous-continent.
Alors on constate que la police et les pouvoirs locaux laissent faire, que le gouvernement central a du mal à maîtriser la situation. Comment est-ce possible ?
Vous savez que l'Inde est une fédération. Une grande partie de ces questions échappe au pouvoir central. La police est entre les mains des États et les violences prennent clairement place dans des États qui actuellement sont aux mains du gouvernement du BJP, c'est-à-dire le parti des communautaristes hindous. Alors il y a donc un certain laxisme, disons, des autorités, que la police n'est pas encouragée comme elle devrait l'être à mettre un frein à ces épouvantables violences.
Est-ce qu'on en parle en Inde ?
Si, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup dans les journaux indiens de ces violences. Mais représentez-vous la situation actuelle de l'Inde. Il y a un niveau de violence très important. Il y a des guerres de caste en Inde. On s'en prend aux intouchables en Inde de façon systématique, permanente, régulière. On brûle des villages, on viole des femmes. Les conflits entre les hindous et les musulmans sont aussi très importants. Maintenant, c'est le problème principal de l'Inde, le terrorisme islamique qui est en train de se développer dans ce pays et qui est tout à fait grave. C'est le problème numéro un de l'Inde actuellement. Il y a malheureusement en Inde actuellement un niveau de violence terrible entre les communautés. En même temps, étant donné la masse de ces populations, il y a une vraie paix sociale. En même temps, il y a une véritable démocratie. Les journaux s'expriment, les journaux dénoncent tout cela comme ils le peuvent. Mais il y a beaucoup de gens mal éduqués, très facilement manipulables. Et les chrétiens font actuellement le frais de violences qui viennent de couches de population totalement incultes. Parce qu'on est dans une vision de l'indianité qui est équivalente à l'hindouité. Les vrais indiens sont hindous. Voilà l'idéologie sous-jacente à ce type de comportement.
Est-ce que cette vision a toujours existé ?
Non, cette vision n'a pas toujours existé. Elle remonte au XIXe siècle. Elle est inséparable d'un certain courant nationaliste. Il y a en Inde, si vous voulez, deux grandes formes de nationalisme. Il y a le nationalisme qui donne naissance à l'Inde que nous connaissons, à la constitution indienne, le nationalisme la Nehru, un nationalisme laïque, où toutes les communautés religieuses constituent la nation. Et puis il y a un nationalisme hindou, qui, depuis les années 90, a pris le pouvoir dans beaucoup de régions de l'Inde et qui est un nationalisme refermé sur l'hindouisme. Ces deux nationalismes sont en guerre en Inde, c'est un débat très important dans la société indienne, mais la constitution indienne, elle, est le reflet du nationalisme séculier, du nationalisme ouvert. Et ne pas oublier que l'hindouisme est la religion de la majorité de la population, plus de 80% des Indiens sont hindous. Ils vivent en voisinage de deux pays qui sont des pays musulmans, le Bangladesh d'un côté, le Pakistan de l'autre, qui ont fait de leur État des États musulmans. Et beaucoup de ces nationalistes hindous se disent pourquoi l'Inde qui est hindoue ne devrait pas faire pareil.